Je voudrais vous parler de l'humanisme. Il faut que vous sachiez ce que recouvre ce terme et ce que c'est que cet humanisme. Je voudrais aussi vous parler de l'invasion de l'Orient et de l'islam, et puis du désastre économique et social qui est en perspective. Commençons par l'humanisme. L'humanisme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on l'appelle ainsi maintenant? Je ne vais pas vous faire de longues définitions, simplement vous dire ce qui nous importe, ce qui nous importe de savoir. L'humanisme est l'ensemble des positions philosophiques, idéologiques, si vous voulez, sociales, politiques, qui constituent une véritable religion de l'homme. Une religion de l'homme, l'humanisme. Celle de l'homme qui se fait Dieu. La religion qu'est l'humanisme n'emporte pas le nom. Aucun humaniste ne vous dira qu'il est religieux, à moins qu'il ait conservé son appartenance catholique ou protestante, mais il ne vous dira pas que l'humanisme est une religion, mais en réalité, elle l'est. C'est celle de l'homme qui a pris la place de Dieu, de l'homme que l'on a nommé absolutisé, c'est-à-dire qui s'est fait un absolu en lui-même, comme Dieu est absolu, l'absolu de Dieu est abandonné, rejeté, et l'homme se fait, lui, un absolu. Cette religion a pour base le culte de l'homme, et elle a puisé ses principes dans les idées de Feuerbach et de Karl Marx, principalement. Il faut dire que l'homme, en son moi profond, ressent toujours un besoin de Dieu. Et si par orgueil, il refuse d'être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, il se verra nécessairement orienté vers des faux dieux, des idoles, et qui naîtront dans sa pensée, qui naîtront dans ses recherches, et qui prendront la forme d'idées auxquelles il s'attachera, qui lui plairont, et qui vont même le conduire. L'homme qui est maintenu, séparé de Dieu par son refus, son incrédulité, ne peut plus croire qu'en lui-même. Et il est obligé d'accorder à lui-même, et d'une manière plus large, à l'homme en général, dans le cadre de ses idées, dans le cadre de son idéologie, de peut-être ses aspirations, il accordera une entière confiance à l'homme en général. C'est donc un renversement de la foi, un renversement de la confiance, et l'ennemi, le Dieu de ce siècle, comme l'Écriture l'appelle, s'efforce maintenant, depuis déjà un certain nombre d'années, mais de plus en plus, de faire pénétrer ce renversement de foi, cette religion humaniste, dans les Églises. On en a notamment la preuve par les théologies modernistes, qui ne sont en réalité que des anthropologies, c'est-à-dire l'exaltation de l'homme, du génie prêté à l'homme. La théologie, par exemple, qui a fait du bruit ces années dernières et qui est encore en vigueur, la théologie de la mort de Dieu aboutit à cela. Exalter l'homme, sa volonté orgueilleuse et puérile d'être un homme adulte, comme on dit, c'est-à-dire un homme qui n'a pas besoin d'un tuteur, qui n'a pas besoin d'un père. Voilà la religion humaniste. La Bible l'avait signalé déjà depuis longtemps par le prophète Jérémie notamment, Et si nous lisons dans Jérémie chapitre 17, verset 5, nous allons là en trouver le principe. Le principe de l'humanisme est là. Chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Nous avons là deux figures qui s'adaptent l'une à cet homme qui se confie en sa chair, c'est-à-dire en lui-même, en ses possibilités d'homme, en son génie, en son intelligence, en son savoir. Et celui-là est comme un misérable dans le désert. Il va faire de la planète un véritable désert. Et il ne voit point arriver le bonheur, c'est-à-dire que le bonheur le fuit, ne vient point. Il n'y aura point, n'est-ce pas, dans cette planète couverte par des hommes humanistes, il n'y aura point du tout de bonheur, et il n'y aura point l'eau vive de l'esprit, elle sera comme un désert. Il habite les lieux brûlés, ingrats par conséquent du désert, une terre salée et sans habitants. Cela est une figure. Heureux, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Le Seigneur Jésus a aussi parlé à des humanistes de son temps, dans Matthieu 23, au chaud verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » C'est exactement la position humaniste qui ne rejette pas, en principe, le christianisme de tradition. Le vrai christianisme, le véritable évangile, oui, mais le christianisme de tradition, pas du tout. Pas du tout, n'est-ce pas? Ne croyez pas que les humanistes, parce qu'ils ont beaucoup emprunté au marxisme, soient des gens areligieux nécessairement. Il y en a parmi eux. Il y en a qui professent l'athéisme ou qui sont agnostiques, mais ils ne sont pas tous. Il y a des protestants qui suivent leurs offices et de même des catholiques, et comme l'étaient en somme ces pharisiens. Mais ils ferment à double tour le royaume des cieux, c'est-à-dire la voie du salut. Ils la ferment par leur position, par leurs enseignements, par leurs entraînements. Parce que, en général, ils ont dans la société des postes privilégiés, ils peuvent beaucoup, et nous pouvons dire que nous sommes gouvernés maintenant par l'humanisme. Que ce soit le fait d'un tel ou de tel autre homme politique, nous sommes gouvernés par l'humanisme. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, c'était des humanistes. L'humanisme est d'ailleurs plus ancien que notre ère. Il y a des racines qui se découvrent bien plus loin que le moment de la venue du Jésus-Christ sur la terre. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne deux fois plus que vous. Nous avions là, dans ces gens-là, des humanistes. Ainsi, l'humanisme est une fausse religion, par conséquent, une hérésie. Et voici ce que un auteur, Pierre Courtial, a écrit au sujet de l'humanisme. Pierre Courtial est actuellement le doyen de la faculté de théologie, qui est évangélique, faculté de théologie évangélique d'Aix-en-Provence. Et voici ce qu'il a écrit. Aujourd'hui, c'est une lutte finale, une antithèse, et juste au moment où l'Église devrait confesser le Seigneur Jésus et le salut par grâce qu'il apporte, les cadres des institutions ecclésiastiques de toutes les dénominations sont rongés par l'humanisme comme le bois peut l'être par les termites. Alors que l'arianisme était la maladie infantile de l'Église, l'Église primitive, l'humanisme d'aujourd'hui, dans l'Église, est la maladie de la maturité, la maladie de son pourrissement. L'humanisme pénétrant dans l'Église. Mais l'humanisme n'a pas que l'Église en vue, le christianisme en vue, n'est-ce pas? L'humanisme, lui, c'est une couverture sur le monde entier. Vous y trouveriez des intellectuels russes, des chinois, des hindous, des américains, des français, de toutes les nations. La vocation de l'homme est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette vocation n'est pas perdue, elle n'est pas oubliée, Dieu y revient. Et si l'homme se coupe de Dieu, définitivement, il ne manquera jamais de se diviniser. Et il va alors se dégrader, se corrompre, se déshumaniser. C'est fatal. L'humanisme, par conséquent, c'est lui qui est responsable de cette dégradation, de cette dégénérescence que nous constatons dans la société tout entière. L'humanisme conduit à l'humanité à la mort. Et c'est lui qui est l'ennemi du genre humain. Le véritable ennemi du genre humain, le voilà. Alors, on peut se demander pourquoi la Terre subsiste encore. Eh bien, elle subsiste encore parce que le Seigneur Jésus nous a dit ceci. Il nous a dit que Dieu faisait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qu'il faisait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ainsi, Dieu maintient à la terre, à la planète Terre, un certain bienfait, ce qui lui permet de vivre. Il endigue les effets désastreux des activités actuelles de l'homme et de ses idéologies. Il les limite, il les endigue. Nous voyons par exemple que les climats ont changé. Nous voyons que les précipitations sont en volume déjà plus nombreuses et surtout en fréquence. Et quelqu'un l'a dit, mais heureusement. Heureusement que Dieu fait pleuvoir davantage. C'est ce qui limite la pollution. Et la pollution de l'atmosphère elle-même deviendrait peut-être beaucoup plus redoutable si elle n'était véritablement lavée par des pluies beaucoup plus fréquentes et abondantes. Et puis, comme nous le dit Pierre dans sa deuxième épître, Dieu patiente. Dieu est dans le temps encore de sa patience. Deuxième épître de Pierre, c'est au chapitre 3, et je lis le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Aucun périsse, c'est-à-dire aucun de ceux qui sont appelés. Hein? Sous-entendez cela. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Avec tout ce que l'homme a pu construire, bâtir, édifier, ces ensembles, grands ensembles industriels, par exemple, tout cela sera anéanti. Dieu contient donc encore les effets de la révolte de l'homme et de leur iniquité grandissante. Et il se ménage pendant ce temps, pensez-y bien, Dieu se ménage un reste fidèle, c'est-à-dire une église véritable. C'est un petit troupeau dans cette génération, c'est un reste. Et cela en dépit de la pression de l'hérésie humaniste. Dieu est fidèle à toutes ses promesses, notamment à celle qu'il a faite à Noé, en disant que tant que le ciel et la terre ne passeraient pas, il n'enverrait pas un autre déluge, et il maintiendrait la vie de tous les êtres vivants. Il maintient la vie tant qu'il décide que le jour et la nuit se succèdent, c'est-à-dire tant qu'il accorde du temps, tant qu'il laisse du temps, alors il n'enverra pas de destruction. Il enverra tout à fait à la fin ses jugements, mais à ce moment-là, le jour de l'Éternel arrivera en clôture de l'histoire du monde, et ce jour sera un jour unique connu de l'Éternel, un jour qui fera transition et qui arrêtera absolument d'une façon définitive le temps actuel, c'est-à-dire l'aïon actuel qui est appelé le siècle présent. Dieu est donc fidèle à toutes ses promesses et à la promesse aussi qu'il a faite à l'Église, que les puissances du séjour des morts, c'est-à-dire de l'enfer, les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tant que Dieu laisse une Église, un reste qui n'est qu'un reste, il ne faut pas, n'est-ce pas, se faire de fausses idées. L'Église aujourd'hui dans notre génération est vraiment un petit troupeau, un reste sur les 4 milliards passés d'hommes qui peuplent la terre. Et l'Église est un tout petit contingent. Je parle de la véritable Église. Nous verrons tout à l'heure des chiffres concernant le christianisme dans son ensemble. Mais la véritable Église, n'est-ce pas, l'Église qui véritablement appartient à Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ, et je souhaite que vous apparteniez bien tous et restiez dans cette Église, corps de Christ, mais elle n'est qu'un petit troupeau à qui Dieu a jugé bon de donner le royaume de Dieu. Tant qu'il maintient ce témoignage, cette Église sur la terre, eh bien, le jour et la nuit se succéderont encore, mais cela pour un temps maintenant très court. En tout cas, les puissances de l'enfer et l'humanisme est actuellement cette puissance de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Et l'hérésie humaniste, celle de l'homme sans Dieu, de l'homme qui est dans l'autonomie, qui s'est placé dans l'autonomie vis-à-vis de Dieu, qui est sécularisé, comme on dit aussi, eh bien cette hérésie tend vers tout ce qui est contre nature. Je vous disais tout à l'heure qu'elle aboutit nécessairement à une dégradation, à une corruption. Elle tend contre tout ce qui est nature. Nous pouvons en prendre preuve dans les choses que nous avons vues, que nous voyons maintenant. Par exemple, cet avortement qui, à la Chambre des députés en France, au Parlement en France, a été si fortement prôné, défendu et a fait l'objet d'une loi. L'avortement, il s'est trouvé un député que j'ai entendu d'ailleurs pour dire « Maintenant, c'est au nom de quoi ? D'une morale dite chrétienne que vous voulez vous opposer ?» à la liberté de l'avortement. Mais c'est dépassé, mais c'est fini, ça n'existe plus cela. Nous sommes dans le temps de l'humanisme. Et tout le monde d'acquiescer en majorité, bien sûr. Et il y a l'homosexualité. L'homosexualité, c'est dans l'ombre peut-être que tout cela progresse, on ne s'en rend pas compte, mais il n'y a pas longtemps, mon frère M. Erard, je pense comme moi, et d'autres pasteurs, avons reçu une circulaire, une certaine circulaire de gens qui nous se disaient être des évangéliques, des chrétiens évangéliques. Ils disaient même que pour certains, ils appartenaient à des assemblées de Pentecôte. Et alors ils nous disent dans cette circulaire qu'ils ont fondé une association. Une association, je ne sais plus comment ils l'ont appelée, mais d'un beau nom. Christ Libérateur. Et alors ils disent, pourquoi avons-nous fait cette association ensemble? Parce que nous sommes homosexuels. Voilà la circulaire que nous avons eue, n'est-ce pas? Et alors ils se défendent là, ils nous proposent d'être pour eux, de leur être favorables. Ils nous disent, n'est-ce pas, que nous aurions vraiment tort, nous aurions le mauvais rôle que de les persécuter. Alors, il nous montre, en déformant bien entendu l'écriture, que même le Seigneur Jésus n'a pas du tout été contre eux, leur était même favorable, leur a même ouvert une porte. Alors, le péché n'est plus le péché. Voyez-vous, voilà l'infiltration de l'humanisme dans l'Église. Et bien entendu, alors, l'homosexualité dans le monde, où elle est admise maintenant très ouvertement, cela, et bien sûr, ne fait pas de question. Il y a aussi, dans cette tendance vers tout ce qui est contre nature, il y a la violence partisane, il y a la prétention hypocrite à la paix, il y a les arts en général, qui sont dépossédés de toute beauté. Ces arts étranges, cette musique non écrite, je ne sais pas si vous avez écouté ça un petit peu, n'est-ce pas, des bruits qui se succèdent, les bruits les plus disparates. Vous avez dans les arts de reproduction, n'est-ce pas, toutes sortes d'initiatives aberrantes. Il y a d'ailleurs un professeur de faculté chrétien évangélique, qui a écrit un ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque pour montrer cette déviation des goûts et des arts. Tout cela vient de l'humanisme. Au nom de la fraternité, on établit l'égoïsme. L'égoïsme notamment dans l'accaparement, car l'humanisme est accaparateur, lui aussi. Il y a aussi ces rêves de transformation de la vie physique, ces expériences auxquelles se livrent les biologistes, expériences troublantes, redoutables, dangereuses même. Quand on trafique avec les gènes, notamment pour créer des monstres, enfin, c'est quelque chose d'infiniment redoutable. Il y a par exemple actuellement possibilité, on nous dit que non dans un certain camp scientifique, dans l'autre on nous dit que oui, de créer le clone d'un homme, c'est-à-dire de reproduire un homme artificiellement, en se servant d'ailleurs d'un certain nombre de femmes, dont il faut faire d'ailleurs pour cela des esclaves de la science. C'est quelque chose d'inimaginable. Il y a toutes sortes de choses, on peut dire, n'est-ce pas, que véritablement l'humanisme conduit à l'hypnose du néant. Et les hommes sont placés sous l'action de cette hypnose du néant, conduit aussi au despotisme idéologique. Et vous savez ce que l'apôtre Paul a annoncé dans la deuxième à Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, dit-il, n'est-ce pas? Ce n'est pas non seulement les temps eschatologiques, toute l'Église est dans les temps eschatologiques, mais là, dans les derniers jours, Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. L'homme ne devient vraiment ce que Dieu a voulu en le créant que s'il s'abandonne à Jésus-Christ, s'il lui donne son cœur et sa vie, et si par conséquent il reçoit le salut par grâce. Autrement, il va nécessairement se trouver dans le camp humaniste et il n'y aura bientôt plus que deux camps sur la terre. Celui des croyants, celui, le camp humaniste, dont l'Antichrist viendra, lui, comme chef. Il en fera un système plus défini, rigide, un système qui prendra même un tour politique.